participants venus pour participer à cette table ronde regardent ici sur la dimension culturelle en classe de langue aujourd'hui et demain. Nous avons trois panélistes. Je vais commencer avec Denise Lucier. Elle a été enseignante et conseillère pédagogique en langue seconde, directrice des études en milieu scolaire, responsable de l'évaluation des programmes de langue et coordonnatrice de l'évaluation au ministère de l'Éducation du Québec. Elle est présentement professeure émérite et chercheure à l'Université McGill. On a aussi avec nous Danielle Moore. Danielle est professeure titulaire à la Faculté d'éducation de l'Université Simon Fraser à Vancouver et directeur de recherche à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, je m'excuse. Ses recherches en sociolinguistique et en didactique des langues et du plurilinguisme s'attachent à décrire les conditions de construction et de gestion des compétences plurilingues et pluriculturelles dans différents contextes de contact de langue et de culture. Et on a aussi avec nous Aline Germain-Rutherford, qui est professeure agréée à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa, où elle dirige le Centre canadien d'études et de recherche en bilinguisme et aménagement linguistique. Elle compte plusieurs publications dans le domaine des technologies de la parole pour l'apprentissage des langues, de la phonétique appliquée et de la pédagogie universitaire. Alors, nous avons invité ces trois panélistes à parler pendant 15 minutes, et après les trois panélistes, il y aura la période de questions. Alors, merci beaucoup à vous trois d'être venus aujourd'hui. Et on va commencer avec Denise Lucier.
Alors, bonjour. Merci d'être ici. Nous allons parler ce matin rapidement de mon côté, puisque je voudrais que nous essayions ensemble de regarder comment nous pouvons nous assurer d'une certaine cohérence quand on parle du développement de la compétence interculturelle. Il faut donc à ce moment-là se donner une compréhension univoque de ce que l'on entend. Il faudrait peut-être à ce moment-là que ce cadre référentiel nous serve à mieux planifier notre enseignement et aussi à développer des programmes d'études, à planifier notre enseignement et aussi à nous aider à gérer l'évaluation d'une toute nouvelle façon, probablement, lorsque l'on parle de compétences interculturelles. Je vais, au départ, vous donner un peu les nouveaux enjeux que l'on retrouve en éducation, principalement au Québec et au Canada. Je vais donc parler d'interculturalité, je vais parler de plurilittératie, qui sont les termes qu'on utilise beaucoup plus maintenant. Ce sera très bref pour l'évaluation des concepts, la conception de l'apprentissage. Je serai donc capable de vous montrer que si au Canada on arrive maintenant à parler beaucoup de projets à partir de différentes approches, de différentes conceptions, c'est qu'on a un vécu qui nous permet d'aborder la compétence interculturelle avec une certaine, disons, pas une facilité, mais peut-être avec une rigueur que nous espérons retrouver dans les pratiques. Alors, pour y aller très bref, il faut dire que la conception de l'enseignement-apprentissage a beaucoup évolué. Je vous parlerai simplement qu'il y a très longtemps que nous enseignons les langues dès le bas âge. L'enseignement au primaire est là depuis très longtemps. L'intégration des élèves immigrants en classe régulière s'est faite par les programmes d'accueil il y a très longtemps. Il faut penser au programme d'immersion qui, chez nous, existe quand même depuis les années 67-72. Et je vous parlerai du premier modèle de la compétence de communication tout à l'heure, parce que le cadre européen, il est basé sur deux modèles de la compétence de communication. C'est le modèle de Canal et Swain, donc deux Canadiens, et celui de Bachman, qui est le modèle américain. Et nécessairement, dans le cadre européen, on mentionne aussi que nous devrions avoir une approche multidimensionnelle, et cette approche, elle est déjà chez nous depuis Stern en 1990 avec ce que l'on appelait l'approche actionnelle et l'approche par compétence. Donc, comment, vu que nous sommes tous des éducateurs et beaucoup plus axés vers les pratiques, donc vers la pédagogie interculturelle, comment donc pouvons-nous arriver à développer une pédagogie interculturelle? C'est de passer des concepts de la théorie à la pratique, finalement. Vous voyez que depuis longtemps, donc, on a dans nos milieux des politiques d'éducation interculturelle. Je vais donc m'attarder aux trois dernières, je dirais, nouveautés de la recherche, celles qui sont les plus connues. Donc, depuis déjà 1997, on a un modèle de la compétence de communication interculturelle. Le premier article a été publié par moi en 1997 dans le journal de linguistique appliquée avec Daniel Coste, et je vous parlais de la politique interculturelle et d'un projet tout nouveau, Carrefour linguistique culturel et communautaire. Donc, d'abord, on a une problématique éducationnelle à partir de laquelle il faut nécessairement se positionner, ce que l'on n'avait peut-être pas antérieurement. Il faut reconnaître l'apport des caractéristiques des apprenants. On a une nouvelle clientèle, on a de nouveaux apprenants. Nos locuteurs, ils sont bilingues, ils sont trilingues et ils sont issus de sociétés modernes pour la plupart. Ils peuvent utiliser leur répertoire comme savoir d'appui. Est-ce qu'on en tient compte lorsque l'on enseigne une langue? Ils participent à la vie d'au moins deux cultures, donc difficulté au niveau de la construction identitaire. Est-ce qu'on en tient compte dans notre enseignement? Ils savent adapter leur comportement, leurs attitudes, leur langage à un environnement culturel donné. Du moins, ils essaient. Ils combinent, ils synthétisent les traits de chacune des deux cultures, ce qui n'est pas toujours évident. Ils se sentent divisés, mais enrichis, comme on l'a entendu hier. Donc, la recherche que je dirigeais, donc pour au niveau du Canada, nous avions posé comme problématique en enseignement des langues les trois concepts langue, pensée, culture, qui pour nous sont trop souvent dissociés, alors qu'ils devraient être intégrés dans nos pratiques d'enseignement. Notre problématique en langue était de se dire, en enseignement, on tend à sous-estimer les interactions sociales, la charge émotive des mots, la formation des représentations de l'autre culture dans les processus d'acquisition. Au niveau de la pensée, est-ce qu'on en tient compte? Comment se construisent nos représentations culturelles et les représentations culturelles de nos apprenants? On se limite trop souvent à la présentation des représentations objectives, les stéréotypes, les artefacts, les éléments folkloriques. Au niveau de la culture, quelle culture interroger? Et on dit que le développement d'une compétence culturelle, interculturelle, transculturelle, est trop souvent ignorée comme composante de la compétence à communiquer. On a donc des problématiques pédagogiques nécessairement. Avec la mobilité des populations, il va falloir apprendre à s'ouvrir, ou il faut apprendre à s'ouvrir aux autres cultures, à la diversité pour mieux vivre ensemble. Il faut donc comprendre d'autres modes de pensée, de croyances, de comportement. Nous abordons les concepts de culture, de compétences interculturelles, et vous verrez que dans les dernières définitions donc, que nous avons produites, nous parlons aussi de compétences transculturelles. Nous touchons au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. Pour intervenir efficacement en enseignement des langues, il faut dépasser les stéréotypes. Donc, il va falloir se donner un référentiel commun, une compréhension univoque, un cadre conceptuel de la compétence de la communication interculturelle. Il existe un cadre. C'est la grande recherche que nous avons faite au niveau du Canada. Et c'est ce cadre, d'ailleurs, dont je vous parlerai, qui est même utilisé au Conseil de l'Europe. Donc, comme le disait Coste, tout comme on avait besoin d'un cadre commun de référence en langue, nous avons maintenant besoin d'un cadre de référence au niveau de la compétence interculturelle. Ce cadre, donc, il existe. C'est un cadre qui contient donc les trois domaines. Je vous présente le premier des domaines, le domaine des savoirs, que nous avons regroupé dans la recherche sous trois grandes approches. Je n'aurai pas le temps de tout vous donner, mais quand même, on a traité de l'approche humaniste, celle dont on appelle la culture avec un grand C, donc dite de civilisation. On a parlé de l'approche sociologique, donc les apprenants ont besoin de connaître quelles sont nos valeurs, quelles sont nos institutions, comment tous les faits qui sont reliés à ce contexte socioculturel. Et il y a l'approche anthropologique qui est en référence au mode de vie des individus. Ce que je n'aimerais pas voir, c'est que lorsqu'on élabore des nouveaux programmes d'études, on se dise, ben avec les débutants, on va traiter de l'approche anthropologique, et puis quand j'arriverai avec les avancés, je traiterai de l'approche humaniste. Alors, vous voyez que ce n'est pas du tout le cas, surtout quand on pense qu'il existe, je pense au compte Le Petit Chaperon Rouge, qui existe dans tellement de cultures. Monique Lebrun a écrit un livre sur toutes les différentes facettes de regarder Le Petit Chaperon Rouge selon les cultures. Alors, je me dis, même avec les tout petits, on peut déjà travailler cette approche. Le deuxième, c'était les savoir-faire. Donc, et là, je rentre dans votre domaine, il n'y a rien de nouveau. Vous savez, quand on a des apprenants, le premier niveau, c'est qu'ils apprennent à fonctionner linguistiquement parlant. Ils sont dans la salle de classe, c'est au niveau linguistique qu'on les prépare. Mais on sait très bien qu'ils vont être obligés de passer à un autre niveau, qui est de s'ajuster au niveau à leur environnement, au contexte dans lequel ils vivent. C'est ce qu'on a appelé le deuxième niveau, savoir s'ajuster pour être capable de mieux interagir. Et avec le Conseil d'Europe, vous le savez, la mobilité justement des individus, donc vous avez tous les programmes, Erasmus, Socrates, bon, Lingua et tout, c'est en fonction de ce deuxième niveau d'amener nos étudiants à dépasser un premier niveau de fonctionnement. Et le dernier, c'est nécessairement arriver à être capable d'intégrer la langue et la culture et de pouvoir négocier. Le plus important, donc, c'était, et vous verrez que c'était le mandat que j'ai eu aussi dans la recherche que je coordonnais pour le Conseil de l'Europe, c'était d'aller cerner le savoir-être, parce que jusqu'à maintenant, on ne s'aventurait pas jusque-là. Donc, on a été capable, et on l'a validé, ce cadre de référence auprès de 2000 jeunes adultes canadiens. On a passé 200 entrevues, entretiens individuels, pour aller voir avec eux quels étaient leurs profils des représentations culturelles. Donc, le cadre, et vous voyez que le cadre fonctionne, vu qu'on a un alpha de Cronbach de 91, j'irai pas plus loin, mais vous savez que on ne vous présenterait pas si on ne l'avait pas validé, savoir que oui, il y a des étudiants qui n'ont atteint qu'un niveau de savoir comprendre, qui est un niveau de sensibilisation, ce qu'on fait depuis tellement d'années. Mais pourquoi on s'aperçoit qu'on ne peut plus simplement sensibiliser? Il faut aller plus loin dans nos interventions. Donc, il faut que nos étudiants arrivent à savoir accepter, à savoir interpréter. C'est ce qu'on appelle de travailler avec une compétence critique, donc l'appropriation. Mais il y a une complication, c'est que pour comprendre l'autre, il faut aussi savoir se connaître, il faut savoir se comprendre, il faut savoir s'identifier soi-même, et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre l'autre par rapport à sa propre identité et à celle de l'autre. Et alors, vous voyez donc trois types de cultures, trois types de domaines, de dimensions. Donc, la première, c'est la compétence culturelle. La deuxième, la compétence interculturelle. Et ce que l'on vise, et je ne sais pas si on pourrait l'atteindre au niveau de nos enseignements en pratique de classe, c'est la compétence transculturelle. Et c'est à ce moment-là que l'individu soit capable de savoir internaliser, donc de capable de comprendre, d'intégrer de nouvelles croyances, non pas nécessairement de changer les siennes en fonction de ce qu'il possède, mais d'intégrer de nouvelles croyances et de pouvoir justifier ce que les autres ont comme croyance par rapport à ce que nous, on a comme croyance, et de servir de médiateur culturel. Donc, on a ce cadre. Ce cadre, il a été utilisé dans quatre différentes expériences. Je vous parle de la première. C'est un cadeau que l'on m'a fait parce qu'on avait déjà travaillé l'évaluation au niveau du Conseil d'Europe et je me disais, il faudrait qu'il y ait des programmes, quelqu'un qui accepte de le mettre dans des programmes d'enseignement. Et le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles vient de refaire son programme. C'est le programme cadre, je ne sais même pas si vous l'avez vu encore, parce que les copies sont présentement pour signature chez le ministre. Alors, il y a très peu de copies qui circulent. Mais vous voyez que pour la première fois dans un programme, donc un développement de curriculum, on a accepté d'intégrer le développement d'une compétence interculturelle. Alors là, vous avez différents aspects, donc, des valeurs qui ont été proposées. Les enjeux, donc, sont en fonction de la société québécoise. Il fallait donc, lorsque l'on voulait développer des comportements observables en salle de classe, parce que quand vous avez des échelles de compétences, vous avez une liste de descripteurs, mais c'est quand même très vaste. Il faut aller au niveau des comportements de la salle de classe pour que l'enseignant soit capable de tirer faits observables. Donc, on a tenu compte des listes des valeurs, les listes des thèmes, et on a pu organiser donc la compétence interculturelle, mais toujours en l'intégrant à la compétence langagière. Ce n'est pas j'enseigne une journée la compétence langagière et l'autre journée la compétence interculturelle. C'est vraiment intégré à l'intérieur des uns. Alors, j'ai pris un des exemples. J'ai pris la dimension, la découverte du pays d'accueil, les champs qui sont couverts, donc qui sont proposés dans le programme, les axes de développement et les valeurs. Et nous avons pu, à ce moment-là, j'espère que c'est assez clair, oui, être capables, donc, les gens qui travaillaient avec le programme ont travaillé spécifiquement les dimensions, les champs, les axes et les valeurs, ce que l'on allait voir en production orale, compréhension écrite, et moi, j'avais la responsabilité de venir ajouter tout ce qui aurait cours ou qui serait au niveau du développement des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Alors, vous voyez que les savoirs, si je suis dans une société libre et démocratique, que je travaille comme apprenant à m'informer sur mes droits et mes responsabilités en tant que locataire ou vis-à-vis un propriétaire. Donc, et c'est un niveau 4 que j'ai choisi, donc c'est un niveau assez avancé malgré tout. Il y a d'abord de connaître des savoirs qui sont importants, les règles prescrites par la régie du logement et tout. Il y a des savoir-faire, comment je vais pouvoir payer mon loyer. Alors, on peut facilement, dans une salle de classe, avoir des jeux de rôle pour aller dans ce sens-là. Et on peut, après quoi, aller vers, une objectivation des apprenants pour dire, comment, dans une autre culture, on respecte les espaces communs? Comment et pourquoi, donc, on se questionne par rapport à ma propre culture, par rapport aux autres, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne peux pas faire ou qu'est-ce que je dois respecter. Et vous voyez que pour les stades, on a des niveaux de complexité, donc on a réparti les verbes selon quand même des complexités. Alors, il est plus facile d'identifier, de repérer dans des textes certains aspects, mais on verra que ça devient plus difficile de regrouper, de réorganiser des aspects ou même de comparer. Des éléments. Les savoir-faire, de répondre à des événements, de s'adapter ou encore de réagir et de chercher à mieux, performer en termes de compétences interculturelles. Et la même chose, si j'ai le temps, je vous parlerai des savoir-être tout à l'heure. Donc, je vais aller plus vite ici. Alors, on vient de savoir que maintenant, on a un cadre de référence, on est capable de développer donc des curriculums, les ministères, les institutions peuvent le faire. Le projet Héritage, c'est une approche, c'est la Commission scolaire de Montréal qui nous a demandé de travailler à modifier tous les programmes PELO, donc les programmes d'enseignement d'origine aux langues. Et on est arrivé avec le projet Héritage, un carrefour linguistique, culturel et communautaire, où à ce moment-là, on a changé complètement la conception de l'enseignement-apprentissage. C'est probablement tout ce que je vais avoir le temps de vous donner. Donc, on va former même les enseignants de langue maternelle à travailler à partir de la plurilittératie des apprenants. Moi, je n'utilise plus les plurilinguistes, les bilinguistes. Je les considère comme étant les statuts officiels des politiques linguistiques des gens. Moi, je suis une éducatrice, je travaille avec des gens. Ce qui m'intéresse comme enseignante, c'est de travailler, de tenir compte de la plurilittératie de nos apprenants. Nos apprenants arrivent en salle de classe, ils n'ont pas une seule langue, ils ont plusieurs langues, ils ont donc plusieurs littératies. Et les enseignants, vous vous souvenez, hein, il faut parler comme des locuteurs natifs, il ne faut pas référer à la... il faut toujours parler français, ne jamais référer à l'autre langue, mais on a passé à autre chose. Donc, je vous laisserai là-dessus, je savais que j'en avais trop, et j'ai toute la partie de l'évaluation qu'on a travaillée aussi, mais sachez qu'on maintenant, on peut être cohérent, avoir compréhension y va, on peut développer des curriculums, on peut développer des projets et on peut aussi l'évaluer, mais de façon tout à fait différente. Merci. Je pense que la mienne va rebondir sur certains aspects de la présentation de Madame Lucier. Et ma contribution vise à discuter d'une part la notion de compétence plurilingue et pluriculturelle telle qu'elle a été développée depuis une bonne quinzaine d'années maintenant dans les travaux du Conseil de l'Europe. Donc discuter cette notion pour la réflexion, notamment en termes de développement curriculaire. Puis je vais essayer de présenter rapidement certains dispositifs de formation qu'on a mis en place pour contribuer au développement et à la promotion de compétences plurilingues et pluriculturelles des professionnels de l'éducation qui enseignent dans des contextes de forts contacts, soit liés aux migrations, mais aussi à la présence de nombreux groupes autochtones qui ont ou n'ont pas conservé leur langue. Et donc, je prendrai comme exemple celui de mon université, Simon Fraser University, donc à la suite de mes collègues Isabelle et Marianne qui en ont déjà parlé ce matin. Donc, je voudrais commencer avec une citation de Daniel Coste, qui a été déjà citée par Denise, j'ai eu un petit sourire, qui pose, lui, que tout mon texte est marqué, à quelque degré que ce soit, par la pluralité des langues et par le fait que les apprenants qui s'y trouvent ont une expérience, à quelque degré que ce soit, du plurilinguisme. Donc autrement dit, on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion dans la formation des enseignants, puisque le plurilinguisme est là. Et ces contextes de forte diversité, ils vont se refléter dans les classes que les enseignants vont avoir. Alors je vous ai mis comme exemple une carte de Vancouver. Je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est le pourcentage de personnes qui parlent une autre langue que le français ou l'anglais à la maison. Et tout ce qui est dans ces couleurs ici est au-dessus de 60%. Et les petites étoiles que vous voyez sur la carte sont les écoles d'immersion dans ces parties de Vancouver. Donc vous voyez que ces écoles d'immersion vont d'une part accueillir des enfants pour qui le français va être probablement la troisième ou la quatrième langue, et qu'une bonne partie des enseignants avec lesquels on travaille dans ces contextes-là, pour eux aussi, le français n'est même pas la deuxième langue, c'est souvent, ou la première, c'est souvent aussi une troisième, voire une quatrième langue. Alors, c'est une réflexion qui s'inscrit dans le cadre plus large de l'élaboration d'une plateforme de ressources et de références pour une éducation plurilingue et interculturelle, qui va être présenté dans une dizaine de jours au forum politique qui s'intitule « Le droit des apprenants à la qualité et l'équité en éducation, le rôle des compétences linguistiques et interculturelles ». Donc ça va être présenté à Genève au début du mois de novembre. Et donc c'est un travail qui réunit tout un tas d'experts, dont des Canadiens, je me mets dans les Canadiens aussi, des experts de tout pays. Et c'est un moment, c'est une réflexion qui se situe aussi à un moment de tension entre des pratiques universalisantes du cadre européen commun de référence, puisqu'il y a un grand débat actuellement au Canada pour son adoption et pas son adaptation. On fait la même chose en Chine, etc. Donc, est-ce que ce cadre peut être déplacé d'un contexte à un autre de cette manière-là? Donc cette tension entre des pratiques, comme je le disais, universalisantes, et puis un effort de contextualisation qu'on cherche à mettre en place, notamment dans le travail d'articulation entre les langues à l'école, entre les langues de l'école et entre les langues des familles et de l'école.
et ainsi que la prise en charge des dimensions culturelles qui sont liées aux langues et aux apprentissages. Alors je vais faire une rapide incursion terminologique et revenir sur cette compétence plurilingue et pluriculturelle. Quand elle a été mise en place sur le marché didactique on l'a écrit en 95, mais je pense que ça a été publié en 97. On essayait le fait qu'on recourt à des mots différents. Pourquoi plurilingue, pluriculturel? On aime les néologismes, certes, mais c'est quelque part, on voulait casser un paradigme de pensée à l'époque, qui est exactement le paradigme que Mme Lucier a décrit tout à l'heure, cette idée qu'il y avait un natif idéal, que c'était ça qu'il fallait qu'on vise, etc. Et donc, on voulait casser ce paradigme de pensée dans lequel la didactique s'était installée, et d'une certaine manière... vous voyez aussi que j'ai écrit pluri, très interculturel. Je pense qu'on n'a plus besoin, enfin, je l'espère, on n'a plus besoin tant que ça aujourd'hui d'avoir recours à ce type de choses, parce que je pense que justement on a changé de paradigme et on a travaillé, on commence à travailler autrement dans beaucoup de contextes. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que la définition initiale que je vous ai notée sur la droite, donc parler de compétences plurilingues et pluri-interculturelles, c'est s'intéresser à la compétence à communiquer d'acteurs sociaux en mesure d'opérer dans des langues et des cultures différentes, de jouer des rôles d'intermédiaires, de médiateurs linguistiques et culturels, à même aussi de gérer et de remodeler cette compétence plurielle au cours de leur trajectoire personnelle. C'est la définition initiale de 97, c'est celle qu'on trouve dans le cadre européen 2001, et c'est celle qu'on retrouve dans l'orientation du nouveau guide de David Little 2010. Sauf que dans le guide de David Little, c'est exactement la même définition, mais c'est compétences plurilingues et interculturelles. D'où mon compétence plurilingue / pluri-inter. Donc, si on revient rapidement à cette définition, on y voit aussi qu'il y a un déplacement de point de vue, c'est-à-dire que c'est le locuteur qui devient le locus du contact, et on essaye de prendre en considération l'histoire de celui-ci et de prendre en considération comment l'histoire de celui-ci va influencer sa lecture du monde. Donc, on va donc s'intéresser à ses expériences de contact et on va donner une grande importance aux biographies langagières et aux trajectoires de vie. Et on voit aussi, encore une fois, l'importance qui est donnée aux compétences de médiation, linguistique et culturelle. Et l'idée aussi que cette compétence se construit sur un inventaire de possibles et que le locuteur-acteur social peut décider de mettre en avant ou de masquer certaines zones de sa compétence de manière stratégique. Et ce manière stratégique n'est pas innocent parce qu'on est bien en train de parler de compétences. Donc on voit aussi que cette définition initiale, elle est influencée par des tas de travaux. Les travaux sur le bilinguisme, dans le PowerPoint de Denise, on a vu citer Grosjean en 1993, c'est un des textes fondamentaux pour nous aussi. Les travaux sur l'exolinguisme, enfin des tas de travaux. Mais aussi, on voit qu'on est à la croisée des sciences du langage, des sciences de l'éducation, mais aussi des analyses de travail. Et ce travail nous conduit à percevoir la compétence petit à petit, non pas seulement comme un répertoire ou un système de connaissances, de capacités et de ressources, qui reflèterait de manière plus ou moins directe un état des éléments à disposition, mais, et là je cite Broncard et Bouléa, comme la mise en place située, processuelle, dynamique, dans l'agir même. D'accord ? Donc on est bien encore une fois... Donc, sur la droite, vous avez un effort de redéfinition explicative de ce que peut être la compétence plurilingue et pluriculturelle dans un texte à paraître de Véronique Castellotti et moi. On est bien dans un travail d'interprétation d'expérience. D'accord ? Donc, cela pose la question du positionnement qu'on va adopter vis-à-vis de la pluralité. Et quels sont les types de scénarisation curriculaire que l'on va mettre en place pour une éducation plurilingue et interculturelle. Puis là, je vais lire avec vous ce que dit Little à ce propos. Donc, cette réflexion doit porter notamment sur la composante expérientielle de tout curriculum, cherchant à respecter le droit à une éducation de qualité, assurer une culture de l'apprentissage des langues, c'est faire l'expérience d'une variété des modes d'appropriation. Il convient en effet de varier les modalités d'apprentissage, de faire accéder à la maîtrise des langues selon une pluralité de démarches. Un projet d'éducation plurilingue et interculturelle se doit non seulement de spécifier des objectifs des niveaux à atteindre, mais aussi de définir des types d'expériences auxquelles les apprenants seront exposés pour effectuer leur parcours dans des conditions favorables. Donc, il y a trois directions qui paraissent déterminantes dans cette perspective pour le développement de scénarios de formation qui visent une intégration au quotidien des pratiques plurielles en relation à la langue de l'école et à la transmission des savoirs dans la classe. Et ces trois directions sont d'une part le développement d'une expérience directe et personnelle de pratiques sociales, qu'elles soient scolaires ou non scolaires, qui inclut la pluralité et la diversité linguistique et culturelle. D'autre part, la construction à partir de l'expérience d'une conscience réflexive, explicite, contribuant à l'édification d'une culture socio- et métalinguistique plurielle. Et enfin, la conscience du rôle de la diversité dans les démarches mêmes d'apprentissage et de construction des savoirs. Donc, nos enjeux et nos objectifs, c'est d'établir la diversité et le plurilinguisme comme centraux dans le curriculum, mobiliser les savoir-faire professionnels et des savoir-être, développer le regard critique des éducateurs et transformer les expériences en compétences pour favoriser de nouvelles pratiques. Donc, on va passer peut-être à l'exemple de ce qu'on essaye de faire en formation initiale et continuée des enseignants à l'Université Simon Fraser de Vancouver, où on bénéficie d'un contexte très favorisant qui met en place une approche communautaire pour l'apprentissage et le développement de la conscience pluriculturelle grâce à des équipes d'encadrement qui sont mixtes et des cohortes qui sont mixtes aussi, qui associent des enseignants du terrain avec des enseignants de l'université, avec des membres des communautés africaines, aborigènes, etc., avec des étudiants francophones et des étudiants francophiles, avec des étudiants francophones ou francophiles, aborigènes ou non, qui se destinent tous soit à l'enseignement élémentaire, soit à l'enseignement secondaire, dans des contextes de français langue seconde ou de français langue première, mais aussi des enseignants qui se destinent à l'enseignement de langues autochtones dans des programmes de revitalisation. Comme je travaille en particulier avec des enseignants qui travaillent à la revitalisation de l'alkamelem, une langue locale. Donc la formation des maîtres est ainsi construite comme une zone de contact où différents réseaux linguistiques et culturels se rencontrent. Et ce qu'on va essayer de mettre en place, ce sont des postures réflexives qui vont se développer dans des espaces où l'équipe de formation cherche à créer ce que Teresa McCarthy appelle des espaces de compatibilité. Par exemple, l'importance du storytelling et le rôle des aînés dans la transmission des savoirs. Ce qui est valable pour la population autochtone locale, mais qui est aussi valable pour les Africains francophones qui sont à Vancouver ou des populations asiatiques. À ce propos, le totem que vous voyez qui couvre les différentes diapositives, la langue qui est tirée, ça signifie la transmission du savoir entre les générations, mais aussi entre les animaux et les hommes. Il n'y a pas une séparation stricte. De même qu'il n'y a pas une séparation stricte entre la compétence plurilingue et pluriculturelle. Donc les pistes de travail que nous sommes en train d'explorer, ce sont le dessin, le récit biographique et l'ethnophotographie pour la réflexion et la formation. Donc on s'en sert comme forme de narration de soi et comme médiateur puissant du travail de réflexion sur soi pour rassembler des données de terrain, pour confronter ces représentations et pour établir de nouvelles théories. Donc encore une fois, notre enjeu, c'est de nous ancrer l'apprentissage dans une expérience personnelle de la diversité qui va encourager le dialogue et la pensée critique, mais aussi l'investissement et l'engagement. Donc encore une fois, ce n'est pas une simple exposition à la diversité, comme Penny Cook 2001 nous dit bien de faire attention de ne pas le faire, mais on est plutôt dans un questionnement de comment faire qui soit compatible avec les manières d'enseigner, d'apprendre des différents groupes. Alors très rapidement, si on regarde les exemples que je vous ai mis là, je vous les commente très rapidement. Ça devrait marcher. On en voit par exemple les enseignants en formation initiale ou en formation continue prendre des photos de leur paysage linguistique. Et là, je vous renvoie à des travaux qui ont été publiés avec Diane Dagenet, avec Patricia Lamarre, Françoise Armand, Cécile Sabatier et moi-même sur le paysage linguistique, mais on ne l'a pas inventé, ça se fait dans beaucoup d'autres lieux, notamment en Suisse. Et par exemple, on amène les participants à se poser la question pourquoi sur la route de Whistler on va trouver dans un pays bilingue, officiellement bilingue, anglais, français, et dans une province anglophone, un panneau comme celui-ci. Et pourquoi Whistler, à l'évidence, ça n'est pas une traduction, ou pourquoi l'aéroport de Vancouver, on va trouver un panneau comme celui-ci. Donc aussi dans l'idée qu'on va les encourager à adopter ce type de démarche dans les classes avec leurs élèves. Et puis ici, vous avez un dessin d'un réseau social et de communication d'un enfant chinois en immersion française en deuxième année. Donc aussi un travail qu'on fait avec les enseignants. Donc on travaille, notamment, je travaille beaucoup avec une collègue autochtone qui s'appelle Vicky Kelly, qui est de la nation Ojibwe, Métis et irlandaise. Et elle vient avec nous travailler avec les formateurs et les enseignants en formation initiale. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on est aussi obligé d'ouvrir des espaces plurilingues parce qu'elle ne parle pas français, malheureusement. Mais en revanche, elle parle allemand et elle parle danois. Et dans cet exemple-là, dans le groupe, on avait un étudiant roumain qui a parlé en allemand avec elle. D'accord ? Donc on est aussi dans des espaces dynamiques qui ne sont pas, où les frontières sont mouvantes. Hein. Donc Vicky fait travailler nos étudiants et nos formateurs sur ce que j'appellerais une compétence pluriculturelle qu'elle appelle une écologie spirituelle. Et ce qu'elle leur fait faire, ce sont des topographies dynamiques de la biographie langagière et d'apprentissage. Alors, je ne vais pas vous passer, on ne va pas écouter l'extrait parce qu'il est trop long. Je vous en donne juste un tout petit bout pour que vous ayez un peu l'ambiance. Hein, parce que c'est très sombre, on fait ça sur une réserve autochtone. Les étudiants sont avec nous 2 jours, on est dans un milieu particulier, on a le feu de bois, etc. Enfin, donc, tout, c'est... Le déplacement est complet. Hein, on déplace les étudiants. Donc j'arrête là, mais en gros, elle essaye de les emmener dans une forme de réflexion de qui on est, d'où on vient et où on va, en même temps que, comment dire, elle les amène à réfléchir aussi comment on apprend autrement. Donc elle est aussi dans une logique de montrer comment on se présenterait dans une communauté autochtone. D'accord ? Donc pour les amener aussi à réfléchir, ben, comment est-ce qu'on va se présenter avec des enfants dans une classe, comment on va amener les enfants à se présenter, etc. Alors voilà un exemple de travail qui a été fait par des étudiants dans la continuité de cette histoire. Parce que pour elle, ça ressemble à c'est du storytelling. Hein. Donc, un de nos étudiants, donc celui qui est roumain, qui dit « Ça m'a aidé à réfléchir comme futur enseignant et en tant que personne bilingue. En fait, moi, je suis trilingue, car je parle roumain à la maison. En plus, j'enseigne l'allemand à mon garçon. et parler allemand avec Wittki était une expérience. Et ça m'a permis de retourner émotionnellement à mon paysage. Ça, je trouve que c'est assez beau, d'une part qu'il parle du paysage et qu'il parle d'émotion, parce que l'émotion, on l'a vu avec Claire Kramsch, elle a insisté sur ce côté-là, on l'a vu avec nos collègues tout à l'heure que vous avez présenté. Denise a aussi beaucoup insisté là-dessus, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment bien faire. Donc on est bien dans des déplacements imaginaires, vous voyez, je suis de Roumanie, go west, oui, ça va être, je vais aller très vite. Donc cette idée que le dessin réflexif, et là je vous renvoie à Molinier 2010 qui a écrit un excellent bouquin avec tout un tas de collègues, il me semble que Nathalie tu as participé, non ? Pas celui-là, mais tu as écrit des choses là-dessus. Qui permet de, donc le dessin réflexif qui permet de mailler les expériences, de prendre la distance, qui permet d'exploiter les savoirs construits dans une diversité de situations et qui permet le transfert de compétences. Alors on va juste lire un tout petit bout. Je pense que cela vient de mon éducation en France qui tend à refouler la subjectivité du jeu qui ne doit soi-disant pas être exprimée parce qu'elle appartient au domaine des passions, des émotions, alors que selon la conception du système, la raison seule doit régner. J'ai donc un peu vécu l'activité de Wittki comme un début de libération, comme si cela avait ouvert une brèche dans cette carapace. Du coup, ça a été assez douloureux pour moi, parce que je n'ai pas l'habitude d'extérioriser des choses aussi intimes. Sur le coup, j'ai eu l'impression un peu qu'on m'arrachait quelque chose. J'ai aussi ressenti de la frustration, parce que je ne trouvais pas les mots justes pour décrire mon endroit, si bien que j'avais l'impression de dénaturer cet endroit. Donc, j'arrive à ma conclusion. Donc on est engagé dans, je peux pas commencer ma phrase comme ça parce que je veux dire qu'on est en train de développer ce qu'on espère être de nouvelles formes de l'engagement, donc de nouvelles conceptions de l'expertise par la transformation de l'expérience en compétences. Donc là vous avez très rapidement des exemples de ce type de travail ethnographique et là qui est fait d'une part avec les enseignants mais aussi avec les enfants dans les classes. Parce que vous voyez que sur ces exemples-là, ce sont eux qui tiennent la caméra. Donc, c'est aussi une forme d'engagement dans la classe et de réflexion sur ce qui s'y passe. Pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça dans la classe ? Et j'aime beaucoup celle qui vient après, parce qu'on a ce double regard entre l'enfant et moi, qui nous prenons en photo. Donc, pour conclure, c'est bien une réflexion autour d'une intégration réfléchie de la diversité linguistique et culturelle qui puisse respecter et revaloriser des multiples savoirs et des traditions locales, autour d'une intégration au quotidien des pratiques plurielles en relation à la langue de scolarisation dans la classe, donc la prise en compte de valeurs différentes pour les langues, des pratiques variées, des cultures éducatives différentes et aussi le fait que ce sont des pratiques qui sont aussi identitaires. Et aussi l'idée très forte que cette intégration doit se faire en relation avec des apprentissages, donc des apprentissages quotidiens et la construction des savoirs. Est-ce que je peux passer ? C'est vraiment hyper court. Merci madame. Donc juste un petit extrait.
Par exemple, qu'est-ce qu'on vient de faire justement cette semaine ? On a parlé, on faisait des mathématiques. Et on a fait en même temps un programme de sciences humaines. Je n'avais pas du tout demandé parce que si je pouvais connecter les deux. Mais pour le reste, on a fait les solides et on a fait les charpentes, vous savez, les petits. Et dans le programme de sciences humaines, on avait une observation au niveau des environnements différents. Tu sais, par exemple, il y avait une photo de Vancouver avec des édifices assez modernes, il y avait une photo. Plutôt, je dirais, d'un pays européen. Il n'y avait pas de nom. Je ne peux pas te dire si c'était la France ou. Mais c'était des édifices un peu plus. Avec des détails architecturaux beaucoup plus du 15e siècle. Il y avait, par exemple, une photo de la Chine où le bonhomme, il était devant une tente de terre séchée avec sa femme. Et on a parlé de ça. Et puis là, c'est comme ça qu'une enfant, on va faire dire, mais monsieur, regarde, c'est comme. C'est comme un crâne. Et là, c'est vrai, mais là, c'est l'enfant qui m'a donné.
Qui m'a donné l'idée, vraiment. Et donc, c'est vraiment cette idée que si c'est intégré dans les pratiques culturelles, dans les pratiques quotidiennes, alors ça devient un positionnement pour tous. Donc, on est bien dans l'idée que ça ne peut garder du sens que si ce travail traverse l'ensemble du curriculum et appartient aux routines de la classe. Donc c'est bien une intégration comme un positionnement et non pas comme une activité. Et c'est une réflexion qui nous engage à réinterroger nos paradigmes scientifiques, nos représentations des langues et de l'apprentissage, ainsi que nos interprétations des savoirs et des pratiques de terrain. Et c'est bien ici notre responsabilité éthique en tant qu'éducateur qui est pleinement engagée. Et je termine sur cette citation de Grégory Kayete de La Nation Tewa, qui dit « L'apprentissage est au final une expérience subjective liée à un contexte écologique, social et spirituel. Atteindre ces idéaux éducatifs nécessite la participation à une métaphore culturelle partagée et une continuité de la connaissance, de la perception, de l'expérience et de la sagesse que la compréhension et l'expérience des aînés ont toujours permis. » Excusez-moi d'avoir pris un tout petit peu plus de temps. Merci.
Merci beaucoup, Daniel et Denise. Je vais, moi, un petit peu nous transporter dans un autre environnement, puisque le propos de ma présentation est la dimension interculturelle, c'est vrai, mais dans les espaces, dans les environnements d'apprentissage en ligne. Et donc, comment est-ce que dans notre travail de conception d'environnement d'apprentissage en ligne, on peut prendre en compte justement cette dimension interculturelle? Ça s'adresse évidemment à nous en tant qu'enseignants de langue, mais comme Caroline l'a précisé, j'ai aussi beaucoup travaillé dans une vie antérieure en pédagogie universitaire, puisque je dirigeais tout un centre de pédagogie universitaire. Donc ce n'était pas uniquement les enseignants de langue seconde, mais des enseignants de toute discipline. Et donc il est vrai que mes propos sont par rapport, c'est vrai, à l'enseignement de la langue, parce que je suis aussi prof de langue et didacticienne, mais très souvent c'est pris aussi dans le cadre de la pédagogie universitaire. Donc il est vrai que maintenant, dans nos enseignements, nous sommes au niveau donc des langues dans un autre paradigme. Claire Crumch, hier, nous parlait justement de cette dimension, et c'est la dimension que Bakhtin aussi nous donnait, de cette dimension dialogique du langage et comment, par le dialogue avec l'autre, on s'appropriait cette langue, on se réinventait aussi par rapport à son dialogue avec l'autre. On parlait, je reprends là les mots de Claire Crumch, on parle de son vécu avec les mots de l'autre. Et donc ça veut dire que l'étudiant de langue n'est plus perçu comme simplement une entité qui va apprendre donc un système, une langue, mais il est aussi perçu comme un acteur social, et on le voit comme un acteur social maintenant dans les apprentissages, dans les environnements d'apprentissage que l'on construit. Donc ça, c'est un aspect, à mon avis, très important. Et là, je prends une citation de Bonnie Norton, parce que je trouve qu'elle résume bien justement cette nouvelle façon de voir nos apprenants, nos étudiants. Rather than seeing language learning as a gradual individual process of internalizing, sorry for my English accent, my bad English accent, a neutral set of rules, structures and vocabulary of a standard language, second language learners need to struggle to appropriate the voices of others. They need to learn to command the attention of their listeners. They need to negotiate language as a system and as a social practice. Sorry. And they need to understand the practices of the community with which they interact. Et donc l'apprentissage d'une langue seconde maintenant est vraiment, vraiment vu maintenant comme une pratique sociale située. Ce qui veut dire que nous, ça nous interpelle en tant qu'enseignants, comment justement créer ces environnements. Et non seulement nous sommes donc dans ce nouveau paradigme, mais aussi cette nouvelle perception de qui est l'étudiant de langue, mais nous sommes aussi dans une nouvelle ère de conception d'environnement d'apprentissage, puisque de plus en plus nous construisons, nous créons des cours en ligne et où donc nos apprenants ne sont plus avec nous en salle de classe, mais ils sont un petit peu partout dans le monde, ce qui veut dire qu'au niveau de la démographie des salles de classe virtuelles, il y a aussi une diversité extraordinaire, même si dans nos classes au Canada, nous avons, il est vrai, une diversité extraordinaire. Là, ce sont des apprenants qui sont encore localisés dans leur pays, dans leur culture, mais qui se rejoignent dans un espace virtuel. Et donc, c'est un autre type de diversité avec lequel on doit jouer. Et donc, c'est intéressant, mais c'est interpellant, parce qu'on se dit, mais comment répondre justement à cette diversité culturelle dans un seul espace virtuel pour mon cours de langue ou autre cours. Il y a déjà eu pas mal quand même d'expériences qui ont été faites, des projets magnifiques que l'on connaît tous. On connaît très bien le projet de Gilbert Furstenberg Cultura qui met ensemble justement des apprenants donc, qui sont dans leur pays mais qui vont dialoguer, et c'est à travers ce dialogue qu'ils vont justement s'approprier petit à petit la parole de l'autre, les valeurs de l'autre, les visions de l'autre. L'Europe, le Conseil de l'Europe a développé énormément de mécanismes et d'outils en ligne qui permettent justement de raccrocher les gens, les uns avec les autres, et donc de pouvoir dialoguer, dont eTandem Europa est un exemple, mais eTwinning, à mon avis, est aussi un exemple magnifique, justement, de création d'environnements en ligne, virtuels, mais qui mettent ensemble les gens. eTandem, c'est des individus, eTwinning, c'est des groupes d'individus, puisque ce sont des classes, et des classes qui vont travailler sur des projets, donc on est aussi très dans cette approche, l'étudiant est un acteur social qui, dans cette communauté en ligne, va agir et donc va développer, va collaborer pour développer un projet avec les autres. Mais les autres, ce sont des classes qui sont en Hongrie, qui sont en Irlande, qui sont en Espagne, qui sont en France. Donc il y a une diversité incroyable. Et comment se passe ce dialogue, comment se passe ce discours, et comment faire face justement aux différences de perception dans un même acte qui est cette création de projet. Donc ce sont des éléments qui interpellent. Il y a un autre dispositif qui a été mis en ligne il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est sorti c'est l'année dernière, qui a aussi une vision intéressante développée donc par le Conseil de l'Aquitaine et aussi par l'Institut français à Madrid, où alors le site en haut s'appelle Miroir, et où on amène justement soit des valeurs, soit des artefacts, soit de son propre pays, mais on les met en miroir et on se questionne par rapport à ces miroirs. À la fois on affirme et on montre comment on voit la chose dans son pays, et l'autre répond et affirme et dit comment lui voit la chose, et puis il y a tout un dialogue qui va se former. L'autre, c'est un site que je trouve très très intéressant qui s'appelle Enfants Nomades, où les enfants, là aussi, créent des projets ensemble et s'interpellent entre eux, donc des enfants espagnols, des enfants français, et autour de projets développés, bien justement, créent un dialogue, et dans ce dialogue, essaye de se comprendre et quelque part de s'approprier aussi une autre façon de voir. Donc tout ça, ça résume bien un petit peu ce qu'on nous dit quand même depuis pas mal de temps. Martine Dalla-Pretzel nous parle depuis longtemps quand même, donc c'est cité 2005, mais je veux dire depuis les années 90, Martine Dalla-Pretzel nous parlait donc de cette culture en acte, c'est dynamique. Un article très beau de Street qui, lui, son titre, c'est « Culture is a verb » et je trouve que c'est une belle façon, justement, de montrer que cette culture est dynamique, elle est en construction. Et ce dialogue interculturel est constamment en construction. Rita McFadden Roche et Chase, en Colombie-Britannique, nous parle d'une culture négociée, donc encore en construction. Et Hall, en fin de compte, l'a déjà dit, il a tout dit, je trouve. Culture is communication, and communication is culture. Donc, on voit bien aussi donc, que cet élément culturel n'est plus simplement une description, mais qu'elle est en train de se faire à l'intérieur de ce dialogue. Et là, je vous ai mis cette image qu'on connaît tous bien, mais comment Hewling l'a interprétée justement dans ce paradigme de l'interculturel en construction. The space in the middle, is it really a goblet? Perhaps it's just a space which happens to resemble a goblet, but which is in fact the ongoing product of participant endeavor. Could it be the manifestation of evolving understanding, a way of finding beliefs, behaviors and norms, a way of generating something that some might call culture? Claire Kramsch hier nous parlait justement de cette réinvention. Avec ce dialogue, on va réinventer aussi ces façons de voir avec l'autre. Et je trouve que ça illustre bien justement ce dialogue de l'interculturel dans une dynamique, mais surtout dans une dynamique de génération ensemble d'une vision donc du monde que l'on crée ensemble. Dans ces espaces virtuels interculturels, la communication interculturelle n'est pas si facile. Elle est pleine d'embûches. Martine Abdallah-Presta nous disait « Rencontrer autrui, ce n'est pas simplement utiliser ses mots, c'est beaucoup plus. » L'ouvrage auquel faisait référence hier Claire Kramsch est un ouvrage magnifique, l'ouvrage qu'elle a dirigé avec Geneviève Zarat et c'est Geneviève Lévy, c'est ça, ouais. Daniel Lévy est très intéressant, et à l'intérieur de cet ouvrage il y a donc une quantité incroyable donc de recherches qui se font justement sur cette dimension interculturelle, pas en ligne là, ça sont des exemples que j'ai pris mais qui ne sont pas en ligne, mais qui vont bien résumer aussi les mêmes défis que l'on a dans la création de nos environnements virtuels. Là, une étude de Morita Evaro sur les stratégies de participation en discussion donc d'étudiants japonais qui sont dans une classe japonaise, canadienne, et des perspectives différentes sur une culture académique différente, et donc qui fait qu'on va prendre et on va participer différemment selon nos perceptions de ce qu'est normalement un environnement d'apprentissage, selon nos perceptions aussi ce qu'est normalement pour nous le rôle de l'enseignant, le rôle de l'étudiant, et donc qui va créer des défis qui ne sont pas que des défis linguistiques aussi. Et là, Morita Evaro nous parle donc de la difficulté de ces étudiants à établir leur appartenance dans cette communauté, pardon, c'est pas virtuel, c'est une communauté vraiment face à face ici, et donc ils sont confrontés à des pratiques culturelles éducatives. Une autre de Charbonneau, tirée donc du même ouvrage, à partir donc d'étudiants autour d'un même but, dans une même classe, et qui ont une même tâche, donc une compréhension d'un texte littéraire et comment s'exprimer par rapport à ce texte littéraire. Et évidemment, des étudiants venant de cultures académiques différentes, mais aussi de cultures sociétales différentes, qui vont réagir donc différemment à cette tâche de cette interprétation du texte littéraire et de comment ils peuvent se positionner, eux, en tant qu'individus, dans cette tâche donc d'interprétation du texte littéraire. Et Charbonneau donc nous parle de ces attitudes différentes de ces étudiants américains, japonais, allemands, etc. Claire Cramsch et Thorne aussi, mais alors là je passe maintenant dans le domaine donc du virtuel, nous ont déjà montré aussi justement les défis de cette communication dans les espaces virtuels où, parce qu'on a des représentations différentes de son rôle, mais aussi de cette langue et de la situation dans laquelle on va utiliser cette langue, nous parlait donc dans une expérimentation, enfin, dans une, dans, pas une expérimentation, dans un cours où des étudiants américains et français donc interagissaient ensemble, où la communication avait été gênée à cause justement d'une interprétation différente de la valeur du discours à ce moment-là dans leur conversation Internet. Et alors, il y a eu énormément d'études qui ont été faites justement sur les perceptions que l'on a de ce qu'est l'espace virtuel et des études aussi donc sur les comportements des étudiants de nationalités différentes, mais aussi d'histoires différentes et localisées donc dans des pays différents, leur comportement par rapport à des tâches que l'on a à faire en ligne, des tâches d'interaction, etc. Kim est bon, par exemple, d'abord, nous parle donc de cette nécessité de absolument de pouvoir se délimiter dans cet espace social qui est donc l'espace Internet. Et donc de se délimiter grâce à des activités d'abord interactives de socialisation. Dans leur expérience, si ces activités interactives de socialisation n'apparaissaient pas au départ, eh bien ça mettait vraiment en danger après la qualité donc des interactions qui pouvaient se passer dans leur espace Internet, mais aussi donc des comportements très différents. Les étudiants coréens avaient tendance plutôt à mettre plus d'importance sur l'aspect social et contextuel dans leurs interactions sur cet espace virtuel. Les étudiants finlandais présentaient un comportement qui était plus réflexif et nos étudiants américains avaient un besoin d'abord de voir cette interaction aboutir à quelque chose et donc c'était des comportements un petit peu différents. Moore, Chatouk et Alarty ont, à partir d'un cours en ligne qui avait été développé par une université américaine, mais un cours donc pris par des étudiants dans des pays différents, des étudiants notamment dans certains pays asiatiques, mais aussi dans certains pays arabes, ont regardé après, par un processus d'interview téléphonique, etc., les différences non seulement de comportement, mais aussi de perception, encore une fois, de cet environnement virtuel, et donc des différences certaines, mais aussi, par exemple, par rapport à une participante dans ce cours et qui était localisée donc, dans un pays arabe et qui avait tendance à limiter en fin de compte ses interventions sur le forum parce que son appartenance sur le forum était différente et les gens qui participaient à ce forum pouvaient avoir une influence sur elle. Elle se considérait comme apprenante, mais elle se considérait aussi comme représentant non pas simplement elle-même, mais sa famille, son groupe et toute la parole qui allait sur le forum, une parole qui restait, une parole écrite sur ce forum, pouvait donc être préjudiciable, si mal comprise, non pas simplement à elle-même, mais aussi à son groupe d'appartenance, une chose qui a été vue aussi moi-même quand je dirigeais donc ce centre de pédagogie universitaire où j'aidais les enseignants à créer des environnements virtuels en sciences de la santé notamment, ou un cours donné aussi dans des pays africains, au Canada et dans des pays européens, et où le professeur venait me voir en me disant « mais je ne comprends pas ». Les étudiants et les femmes de ce groupe dans ce pays africain refuse presque d'intervenir sur le forum. Elle dit pourtant pédagogiquement, je crois que j'ai tout mis vraiment pour pousser cette communication, ce désir de communiquer, de partager ses idées. Je lui dis là, tu n'es peut-être pas dans un problème d'environnement pédagogique ou même de linguistique, mais dans un problème culturel. Et il a fallu en fin de compte effectivement que l'on mette un intermédiaire, c'est-à-dire que ces étudiantes qui avaient des choses à contribuer sur cet espace virtuel, mais qui, encore une fois, considéraient qu'elles n'étaient pas que elles étaient aussi leur famille et leur communauté, eh bien, il fallait, les messages donc, devaient passer par le professeur, donc par un tiers, pour être ensuite postés sur le forum, et c'était la façon que l'on a trouvée pour leur permettre donc, d'interagir. Et ce sont des... nous avons tous appris justement dans ces expérimentations, parce que c'est vrai que c'était un questionnement qu'on ne se posait pas. Moi-même, donc, dans une étude faite avec le Cameroun, la Suisse et donc le Canada, nous sommes allés chercher les perceptions pour les espaces virtuels des étudiants et des enseignants, puisque énormément de nos cours sont développés, par exemple, au Canada, mais sont donc donnés dans d'autres pays, pour essayer de voir justement comment ils se situaient. Deux petits exemples, un de nos étudiants au Cameroun nous disait « c'est bien beau tout ça, mais il faudrait quand même que chaque professeur en train d'enseigner donc en ligne des étudiants étrangers pense aux réalités africaines ». Une chose toute simple, par exemple, c'est que dans ce cours qui avait été développé au Canada, mais qui s'adressait quand même à ces étudiants au Cameroun, et ben, on parlait de skidou, on parlait de choses... ou même des projets à développer, donc pour développer le projet, aller interroger certains petits commerces, et dans les petits commerces, il y avait une pizzeria. Si vous allez à Douala, vous sortez de l'université, c'est pas les pizzerias que vous allez avoir, etc. Mais une belle parole aussi d'un de nos étudiants, on apprend plus, qui s'est rendu compte d'une particularité de l'échange oral de sa culture grâce à son échange en ligne avec les étudiants canadiens, en nous disant on apprend plus par l'oral, dans ma culture, chez moi, on apprend plus par l'oral les mythes, les contes, les proverbes, le symbole, la palabre. Cela ne veut pas dire la discussion, c'est une façon de communiquer, surtout quand il faut trancher un problème qui se pose entre deux personnes. C'est d'une beauté extraordinaire. Si vous êtes dedans, vous allez comprendre. Et ce qui était fantastique, c'est que lui, en étant dedans, mais par rapport à son dialogue avec ses interlocuteurs canadiens, s'est remis dedans et a compris toute la beauté pour lui, justement, de cette palabre. Et son commentaire vers nous était « Mais en fin de compte, ce qu'on a développé en ligne dans les cours dans lesquels je participe ne reprennent pas du tout en compte cet élément oral, justement, et cet élément de la métaphore pour la communication. » Donc c'était des enseignements pour nous très, très importants. Ce qui veut dire qu'on a regardé, donc à partir de ce projet, on a regardé donc différents modèles qui avaient été développés pour développer des environnements en ligne, modèle qui, je terminerai vraiment dans 30 secondes, modèle qui mettait en place tout un niveau de flexibilité, tout un questionnement à se poser au niveau de tout ce qui concerne le développement d'environnements en ligne, organisation sociale de cet environnement, évidemment la sélection des matériaux, etc., mais évidemment dans une question de flexibilité. Mais c'était encore des modèles qui étaient très juxtaposants, c'est-à-dire on a une multiplicité, c'est vrai, de visions qu'on amène, sa vision culturelle qu'on amène, mais c'est toujours quand même une juxtaposition. Et le modèle que nous avons retenu, et qui en fin de compte reprend tout à fait ce modèle vers l'importance de cette réflexion que l'on a, et de cette réflexion critique et ce recul, c'est le modèle de culture multiple d'Anderson, qui est à mon avis très, très intéressant, où elle reprend, oui c'est vrai, la réalité de ces cultures qui viennent se chevaucher ensemble dans cet espace virtuel. Elle prend cette culture académique et de formation, parce qu'elle part d'un constat quand même que même à travers ces pays différents, il y a quand même quelque part une culture académique qui va se retrouver, la culture dominante où est l'étudiant, les cultures minoritaire dans cet espace-là et proposer donc une conception pédagogique en ligne qui est très à la fois éclectique, mais qui va, dans toutes les activités proposées, va demander une prise de conscience, une réflexion et surtout une mise en perspective. Tout contenu, toute approche, tout travail à effectuer va être proposé constamment dans une perspective dans une dynamique de questionnement et permettre à l'étudiant d'amener lui aussi cette perspective. Donc, je termine avec la citation de Martine qui retrouve très bien. Apprendre, en fin de compte, à objectiver son propre système de référence, à s'en distancer et donc à admettre l'existence d'autres perspectives sans sombrer dans les dérives du relativisme absolu, mais en s'appuyant sur un apprentissage de relativité à partir d'une série de décentrations successives. Et c'est ce qui est cette dynamique donc de réflexion. Tout ce projet a abouti à des ateliers, à un site web que je ne peux pas vous présenter maintenant, de formation pédagogique pour les professeurs universitaires dans cette dynamique. 15 minutes à bon moment.
Bon, merci beaucoup, Denise Lucier, Danielle Moore et Aline Germain-Rutherford. Je vous invite maintenant à poser des questions et aussi les panélistes pourraient se poser des questions entre elles aussi. Alors, si vous avez des questions.
Si personne n'en a, est-ce que je pourrais prendre mon 5 minutes?
Oui.
Je vais vous parler un peu de celui qui existe, qui est le projet héritage, qui amène les parents dans l'école, donc les cours de langue ne se suivent, n'auront pas lieu dans les centres de langue pour les parents, mais bien au niveau de l'école de leur enfant. Et il y a toute une série, ils vont travailler même avec les livres que les élèves ont comme matériel didactique pour apprendre un peu une terminologie qui est propre au contexte de l'enfant. Et pour pouvoir, à ce moment-là, au niveau des examens, des devoirs pour l'enfant, de pouvoir devenir une personne qui va pouvoir les aider. Alors, il y a cet aspect, c'est toute une nouvelle approche. Des cours de pédo qui étaient réservés spécifiquement aux jeunes, si j'enseignais le mandarin, c'était pour les gens qui enseignent, puis qui veulent apprendre le mandarin, donc réservés à la clientèle migrante qui voulait asiatique. Alors que là, on accepte maintenant d'autres personnes qui veulent prendre ces cours. Donc, on permet une certaine complémentarité entre divers groupes ethniques qui vont aller suivre un cours de mandarin. Je n'ai pas besoin donc d'être simplement partie prenante de ce groupe ethnique. Alors, c'est quand même intéressant. C'est tout nouveau. Donc, c'est une approche thématique, une approche globale. On fournit même aux enseignants un exemple de ce que peut être une unité d'enseignement où on a intégré langue et culture tout au long de l'unité. C'est donc partie intégrante. C'est toute une nouvelle conception qui se retrouve. Ce que je voulais dire aussi par rapport au projet de recherche que nous avons, ce qui est peut-être intéressant pour vous autres comme enseignants aussi, c'est que nous sommes partis avec comme hypothèse qu'en questionnant les 2000 jeunes adultes que nous avions questionnés par cette entrevue, nous serions capables de peut-être cerner des profils d'individus qui sont du côté de la xénophobie. Donc, des individus, qu'est-ce qui fait que nos représentations sociales vont faire en sorte qu'on n'a pas d'ouverture aux autres cultures par rapport à ceux qui ont une ouverture aux autres? Est-ce qu'on serait capable, par notre recherche, de trouver des profils de ces individus-là? On n'a pas trouvé de profil. Et vous allez dire, oui, mais est-ce que c'est dommage? Moi, je dis non. En tant qu'éducateur, ça a été, je dirais, la plus belle façon que l'on avait de reconnaître que la culture, elle n'est pas ancrée, elle est toujours en mouvement. Et si on avait eu des profils, en tant qu'enseignant, vous voyez quelle aurait été pour nous la difficulté de changer les comportements et les attitudes. Or, on s'aperçoit avec la recherche que les comportements vont varier en fonction des expériences des apprenants. Donc, comme enseignant, je me dis, plus on va leur donner des expériences positives, où on va être capable de contrer les expériences négatives, on a donc une possibilité d'influencer les comportements et de les amener à, non pas à se cantonner dans un profil de xénophobie ou de xénophobie, tout en disant que nos expériences de vie vont se modifier avec les expériences et elles vont les enrichir finalement. Et à partir de ces expériences, ils vont probablement devenir davantage le dernier niveau de notre savoir-être, qui est être capable de devenir un médiateur culturel, donc d'essayer de régler, non pas de régler, mais de ne pas intervenir pour amplifier les conflits, mais plutôt de servir d'autres gens pour éliminer les conflits. Alors ça, c'est quand même un aspect de la recherche. L'évaluation, alors ce livre existe, donc sur le projet Héritage, c'est un projet de recherche d'action. Pour l'évaluation, vous pouvez aller télécharger le livre. C'est une équipe, donc je coordonnais l'équipe pour le Conseil de l'Europe qui avait pour mandat de développer et d'évaluer. Comment on peut développer et évaluer la compétence de communication interculturelle? Et Tico Lazare, bon, qui est en Hongrie, avait la partie développée. Moi, j'avais toute la partie du développement de la compétence d'évaluation interculturelle, mais en évaluation. Alors, il y a beaucoup de limites que l'on a mis. Ce n'est pas l'évaluation sommative, c'est l'évaluation formative, c'est beaucoup d'auto-évaluation, c'est beaucoup de production écrite, parce que à ce moment-là, on n'a pas le billet de l'enseignant, mais on a la production de l'élève qui, justement, nous donne ses expériences de vie. Alors, on a donné tout ça et on avait comme mandat de fournir des niveaux de compétences. Ce qu'on a fait, et vous retrouvez des niveaux de compétences. Pour chacune des dimensions, des sous-dimensions que je vous ai données tout à l'heure, vous retrouvez des exemples de ce que pourrait être une situation d'évaluation. Et comme je dis toujours, si on ne sait pas quoi enseigner, on ne sait pas quoi évaluer, ben, ce qu'on évalue, ça pourrait servir aussi de situation d'apprentissage. Donc, et vous les avez, et il y a eu de très beaux exemples qui m'ont été donnés. C'est une équipe qui n'avait jamais travaillé en évaluation. Ils ont apporté des situations qui sont vraiment intéressantes, mais toujours dans un esprit d'évaluation formative, le journal de bord, le portfolio, donc des récits, et où on permet de passer du stéréotype à justement un examen beaucoup plus réflexif, pour amener à le degré un peu plus haut. Celui-là, vous allez le voir aussi, c'est le projet de recherche avec Geneviève Zarat sur la médiation didactique des langues et médiation culturelle. J'avais la responsabilité, moi, d'aller chercher les perceptions des enseignants, les représentations des autres et des autres cultures dans le contexte de la formation initiale et continue. On a donc questionné les enseignants de divers pays, où on leur demandait, à partir du cadre conceptuel dont on avait, en termes de savoir, ce qu'ils avaient déjà appris en termes de savoir-faire, ce qu'ils étaient capables de faire en salle de bain, et en termes de savoir-être, est-ce qu'ils étaient prêts à vouloir enseigner la compétence interculturelle. Parce que c'est quand même un changement de notre philosophie d'éducation, c'est une nouvelle vision du monde qu'on a là, ce n'est pas simplement changer une unité d'apprentissage. Alors, et ça, je trouve que c'est très intéressant, à 99%, que ce soit dans l'Espagne, que ce soit un autre pays, la Tchécoslovaquie, on est en train de parler des Tchèques maintenant et tout, on a répondu à 99% qu'on était prêt à cette étape-là, mais à 99%, on a répondu qu'on ne savait pas comment. Et je pense que c'est là-dessus, nous, que nous travaillons dans notre équipe de recherche, c'était d'abord de fournir un cadre de référence dont on peut avoir une compréhension du niveau. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de savoir? Qu'est-ce qu'on entend de savoir-faire et de savoir-être? Après quoi, on peut développer des curriculums, on peut penser du matériel, on peut penser des unités, et on a maintenant les possibilités d'évaluation. sauf que j'ai vu des pays, dans un colloque, dire qu'ils voulaient faire des évaluations sommatives. Mais si jamais on arrive à ça, c'est la mort de la compétence interculturelle, parce qu'on vient tout à fait de rater ce que l'on peut faire, c'est de s'ouvrir au monde et non pas de s'ouvrir à des examens.
Alors, il me reste encore du temps, s'il y a d'autres questions.
J'ai juste une petite question.
Il faut parler plus fort.
Je vais parler plus fort. Alors, j'ai juste une petite question par rapport aux compétences interculturelles. Dans les compétences que vous nous avez indiquées, la compétence l'agir, la compétence à agir, qui était identifiée au préalable par Biram il y a plusieurs années de cela, n'est pas là. Est-ce que, donc j'aimerais savoir, est-ce que la compétence transculturelle que vous nous avez montrée remplace-t-elle cette compétence à agir?
C'est-à-dire que la compétence de l'agir, il est là, mais il est en termes de savoir-faire, donc de savoir agir, de savoir-faire. La compétence qui n'est pas là, c'est le savoir-apprendre, parce que celle-là, on ne l'a pas retenue au niveau d'un cadre, parce que pour moi, elle ne m'apparaissait pas spécifique à l'enseignement d'une langue. Elle m'apparaissait une stratégie que l'on doit développer, quelles que soient les matières dans lesquelles on enseigne et telles quelles. Donc, on s'est limité, mais ça ne voulait pas dire qu'on n'en tenait pas compte, mais que pour le cadre, parce que on a limité aussi, bon, quand même, la recherche à l'évaluation, je dirais, à l'expérimentation de la dimension et du domaine du savoir-être, parce que c'est le domaine qui n'avait pas été travaillé. Alors, mais le savoir-faire représentait pour nous le savoir-agir pour répondre à votre question.
Yacram, je voudrais reprendre cette question, mais au point de vue symbolique, puisque Daniel avait parlé de du capital symbolique qui vient de l'expérience de l'altérité, etc. Comment est-ce que cette dimension symbolique est-elle intégrée à tous les savoirs que nous avons? D'ailleurs, c'est la question que m'avait posée Michael Barron lui-même. Donc, il n'était pas très sûr de la place du symbolique parmi tous ces savoirs. Est-ce que vous auriez une réponse?
En fait, tout ce qui touche le symbolique, tout ce qui a trait à non pas des représentations objectales, mais des représentations mentales, telles que décrites soit par Bourdieu ou quand même par Sperber aux États-Unis, quand même, pour nous, sont dans le domaine du savoir-être. Donc, c'est la première fois qu'on a été quand même chercher, parce que on voulait travailler les représentations mentales, on voulait travailler donc tout ce qui était du niveau beaucoup plus psychologique, et on les a intégrés au niveau du savoir-être. Sachant que les savoirs pouvaient avoir... je dis ça et puis je vais me rétracter un peu. Dans le savoir-faire, nous allons beaucoup vers l'approche sémiolinguistique des textes. Donc, on s'en va vers la symbolique. Je n'ose plus en parler parce que j'ai l'impression que c'est trop avancé très souvent. C'est que nous, dans les écrits qu'on est en train de produire, c'est que l'on voudrait que les enseignants travaillent les textes, non pas simplement partir de l'approche linguistique, de la compétence linguistique des mots, mais travaillent les textes à partir des signes culturels que l'on trouve dans les textes. Alors moi, je dis toujours mes étudiants, il ne devrait pas y avoir un seul texte que l'on utilise en langue qui ne serait pas un texte où on a un aspect culturel, des éléments de connaissance, des éléments de savoir-faire et tout, mais surtout que l'on puisse passer à travers un texte par les signes culturels. Et pour l'avoir fait en expérimentation dans ce projet-là, avec la commission scolaire, on s'est aperçu que lorsque l'on travaille à partir des signes culturels, tous les qualificatifs que l'on trouve dans un texte sont à caractère symbolique. Eux, ils sont signes, nous, on est telle chose. Donc, on est capable de faire ce lien-là. Et je dis toujours dans l'enseignement, je veux toujours partir du culturel pour aboutir au linguistique, mais ce n'est pas vrai que présentement on parle du linguistique pour aboutir au culturel. Donc, je le verrais par une approche sémiolinguistique, donc de l'étude des textes, dans un savoir-faire, qui va se traduire par aussi un savoir-agir et nécessairement un savoir-être, parce que à ce moment-là, j'intègre de nouvelles représentations et ça me permet d'aller plus loin dans les croyances et le développement des pensées face à l'autre.
On laisse temps pour une dernière question.
Je voudrais juste, je suis très contente de vous entendre et d'avoir entendu la question de Mme Cranch. Avec ma collègue Isabelle Copier, qui est ici en avant, nous travaillons justement le signe culturel à partir de la bande dessinée. Donc, notre objectif à l'éducation interculturelle passe non pas à travers la langue, mais à travers le signe tel qu'il est représenté dans les différentes bandes dessinées francophones.
Écoutez, si on travaillait davantage les annonces publicitaires, vous auriez tous les signes culturels que vous pouvez trouver, que ce soit une annonce de whisking, que ce soit dans les produits de beauté pour les femmes, ou quoi que ce soit, on a tous les stéréotypes que l'on peut trouver à partir des annonces publicitaires. Or, on ne travaille pas très volontairement souvent le discours publicitaire qui dépasse sur nos jeunes par le développement des stéréotypes.
Bon, alors, je voudrais remercier notre panéliste. Merci beaucoup d'avoir partagé vos idées, vos recherches et d'avoir donné des pistes de réflexion. Merci beaucoup.